s'agit de toute la hiérarchie des interdits qui commence par l'argent sans lequel on ne peut pas faire. Bon, moi je fais avec un minimum d'argent et avec des cassettes vidéo plutôt qu'avec du film argentique parce que ça nécessite beaucoup d'argent. Et on s'aperçoit que les moyens techniques quasiment se rejoignent et que pour moi, je vois, ce qui compte, c'est l'image, c'est une image intrinsèque projetée. Or, il y a de moins en moins de différences, il y a de plus en plus une meilleure définition, une bonne définition de l'image vidéo. On fonctionne toujours, je dis un « on » comme ça, comme dans une arrière-garde. Alors, on a une prévention contre la vidéo, et cette prévention perdure au-delà des réalités. Hein, c'est-à-dire, la réalité, c'est qu'il y a ces progrès dont j'ai parlé, qu'on peut avoir une très bonne image et tout, et dans l'exploitation même, alors qu'on pourrait exploiter en salle, on le fait déjà, on pourrait exploiter davantage des productions vidéo et projeter des vidéos comme on projette des films, sans que les spectateurs en aient conscience. Bon, j'ai vu il y a quelques années, c'était un film qui passait au Saint-André-des-Arts, et ça avait été fait d'une façon artisanale. C'était un film qui avait été fait cet homme qui hante Mouffetard, le quartier latin, barbu, je ne sais pas pourquoi son nom m'échappe. Vous voyez qui je veux dire, qui circule à vélo. Mouna, voilà. Bon, il y a un garçon qui a fait quelque chose sur Mouna. Il l'a montré à Roger Diamantis du Saint-André-des-Arts, et qui a été pris au mot parce que Roger Diamantis a fait la réflexion, a dit « Ah, si ce n'était pas la vidéo, j'aurais passé ». Bon, il l'a passé parce que le garçon, dont le nom m'échappe, j'en suis désolé, qui a fait ce film, a filmé sur sa télévision, a refilmé en film sur sa télévision le film sur Mouna. Puis moi, j'étais surpris. Bon, je suis allé le voir, ce film, et puis les gens dans la salle, j'ai posé la question parce qu'il y avait un débat après une projection. Les gens ne s'étaient pas rendus compte. J'ai demandé, mais vous savez que c'est à l'origine, c'est de la vidéo. La plupart des gens ne s'en rendaient pas compte. On peut quand même s'en rendre compte, surtout à l'époque où ça a été fait, un film refilmé sur une télévision, bon, un peu comme l'a fait Cavalier, mais ça a un autre sens, ça a tout à fait un autre sens. Les gens ne se rendaient pas compte du lignage que cela fait, du balayage de l'écran, mais de plus en plus, ce balayage s'estompe à travers la définition de la caméra qu'on a utilisée, à travers les procédés de transfert de la vidéo en film. Il y a des procédés qui, actuellement, sont encore très chers parce que c'est une analyse de l'image vidéo, image par image. Ça prend un temps très, très long parce que chaque image est analysée et ses couleurs sont reproduites. Alors, sans du tout, le lignage de la vidéo. Et on peut être même surpris par certaines, sans être passé par ce procédé extrêmement cher, on obtient quand même des images. Je sais pas, Noël Birch m'a parlé d'un film récemment qu'il a vu en me disant « J'étais vraiment surpris, je ne savais pas que qu'à l'origine c'était de la vidéo. » Et pourtant, je crois, il m'a dit aussi que ça n'avait pas été filmé à travers, retranscrit à travers un procédé onéreux, quoi. Ça, c'est important, mais on a du retard par rapport à ça. C'est un problème de mentalité. C'est le problème de mentalité des... Comme cela, ça l'a été pour moi, mais j'ai très vite compris que la vidéo était restée ma seule manière de fonctionner, de continuer de vivre, de vivre ma création. Sinon, ben, je ne sais pas, sur ce plan-là, je serais mort. Donc, c'est actuellement la mentalité des exploitants, de certains, enfin, c'est transgresser cela et savoir passer de l'argentique au magnétique et pouvoir alterner ou décider de passer de la vidéo comme on passe un film. Et je pense que les films que vous avez eu l'occasion de voir, qui sont en vidéo, pourraient être programmés dans une salle. Bon, mais en même temps, j'en arrive moi à ce paradoxe, c'est que on m'a proposé, je suis passé de l'argentique au magnétique, du film à la vidéo, et on m'a proposé les vidéos que j'ai faites, de les transférer en film pour les exploiter. Mais ça demande des moyens financiers que je n'ai pas. Et donc, j'aurais pu montrer ces vidéos. J'espère encore les montrer en vidéo ou peut-être trouver les moyens financiers. Mais ces moyens financiers n'existent pas aussi dans la mesure où ça peut être par rapport au CNC des problèmes administratifs, c'est-à-dire que ça n'entre pas dans des cases, dans des normes, que mes films, peut-être s'ils étaient plus longs qu'ils ne sont, seraient des longs-métrages et pourraient être présentés comme des longs-métrages, avoir des aides, mais qu'ils ne peuvent pas voir parce qu'ils sont en deçà des 59 minutes et que dans la législation, en deçà de 59, c'est un court, au-delà, c'est un long. Bon, je ne sais pas, c'est très arbitraire. Pour moi, la durée n'existe pas. D'une part, ça n'existe pas dans mes films, sauf à ce que des gens puissent s'y trouver un peu long, je ne sais pas, puissent s'y trouver des longueurs. Enfin, je dis ça, c'est contre moi-même, mais c'est un petit peu maso de dire ça. La durée ne veut rien dire. Je veux dire, il y a des gens qui font des chefs-d'œuvre en cours et d'autres qui font des... N'ayons pas peur du mot, des merdes en long, quoi. Hein, voilà, donc ce n'est pas ça qui compte. C'est pas du tout ça qui compte. Et c'est pas faire le plus long que l'on fait le mieux, quoi. Enfin, voilà, bon, je sais pas ce qui peut se dire encore autour de ça. J'essaye, en tout cas, de trouver un rapport inverse de la qualité et du coût. Et de ce que ça coûte. Je travaille actuellement en digital vidéo, c'est-à-dire c'est du numérique grand public. Je me suis aperçu que ça donne une image extraordinaire, ça donne une image d'une très très grande définition. Et je veux supposer que si on agrandit ces images en film, elles doivent être encore meilleures que des images ordinaires agrandies en film. Bon, mais c'est... Alors, le digital vidéo va être de plus en plus accessible au grand public, mais ça a une qualité, comme on dit, tout à fait broadcast. Et beaucoup de professionnels ne se privent pas de filmer en digital vidéo grand public et de transférer en broadcast et de faire des produits télévision. Alors, c'est ça qui est important. Mais évidemment, il y a aussi la part... les interdits de l'industrie, c'est-à-dire que on est en retard sur le fait de trouver, de fournir une meilleure qualité au moindre coût. Ça peut d'une certaine manière se comprendre sur un plan donc purement commercial, c'est-à-dire que on veut continuer de vendre des caméras très chères, alors qu'avec des caméras moins chères, on peut, mais bon, elles sont un peu plus fragiles, etc. Bon. Mais l'essentiel, c'est l'outil. On rejoint cette notion d'artisanat, c'est d'avoir l'outil qui permet de produire, dans le sens de produire de la création, de continuer de créer, c'est ça qui est important. Bon, on voudrait aussi, il y a des problèmes de prestige, je ne sais pas, tourner avec une caméra impressionnante Et moi, mon propos dans ma philosophie en vieillissant, je crois que la sagesse vient aussi dans le vieillissement. Bon, c'est encore un paradoxe, mais il existe, il est là. Et mon propos, c'est de réduire, d'avoir, de paraître finalement, le mot artisanat rejoint celui d'amateur aussi, un petit peu, d'une certaine manière, ces deux notions. Je veux dire que je ne suis pas du tout gêné de tourner avec une petite caméra, qui est une caméra qui passe pour une caméra d'amateur. Ça ne me gêne pas du tout. Il y a cette espèce de mythologie professionnelle qui veut qu'on ait de gros moyens, qu'on les étale, ces moyens, qu'on ait autant que possible une grosse caméra, que ça soit impressionnant et tout. Mais ce n'est pas ça qui est important. Voilà, l'important, c'est ce qu'on fait avec l'outil que l'on a. Et la performance de l'outil n'est pas dans le coût de l'outil, dans la grosseur de l'outil, il est dans le rapport de l'artisan et de celui qui manipule cet outil. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ce rapport qui est un pouvoir, d'une certaine façon. Il y a pouvoir, et il y a une prise de pouvoir sur, comment dire, sur l'esprit par rapport aux moyens que l'on se donne de ce pouvoir à prendre. Et c'est pour ça que, aussi, on refuse ce qui n'est pas fait d'une manière orthodoxe, enfin, dans l'orthodoxie de la profession, du métier, de la distribution des choses, et que des produits comme ceux que je fais, il y a de cela, dans le refus que l'on m'oppose, ou de l'ignorance. On veut ignorer ce qui est fait d'une manière... On veut ignorer et censurer, c'est très grave, ce qui est fait d'une manière artisanale, ce qui est fait avec peu de moyens, ce qui n'est pas fait dans les normes et ce qui n'est pas fait dans l'orthodoxie.
Ça, c'est que les exploitants et la distribution, en fait, sont responsables là-dedans parce qu'ils équipent très peu en vidéoprojection. Il y a très peu de salles dans Paris, par exemple. Ça serait facile, parce que ce serait très coûteux d'équiper les salles.
Si on veut avoir un bon équipement, ça peut être coûteux, mais moi, je m'en veux de répondre, pardon, mais de répondre directement à votre question. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que dans cet esprit artisanal, on devrait pousser les choses, cet esprit d'artisan, on devrait pousser les choses encore plus loin. C'est-à-dire que mon rêve secret, qui n'est plus à partir du moment où je l'énonce, c'est d'avoir mon propre lieu, je dirais pas salle, je dirais un lieu dans lequel j'installerai un vidéoprojecteur, un magnétoscope, et où je projetterai mes vidéos, où je ferai venir des gens, où je ferai aussi des affiches artisanales, où je ferai une propagande artisanale, etc. Je crois que c'est dans cet esprit que l'on devrait arriver. Je ne suis pas opposé à l'autre forme de cinéma, mais cette forme d'esprit-là devrait avoir une ouverture, devrait pouvoir exister. Enfin, moi, je ne redoute aucune concurrence. Pourquoi redouterait-on la concurrence de mes produits artisanaux fabriqués avec de petits outils, je ne vois pas au nom de quoi, parce que peut-être aussi, à travers ces moyens, en le voulant ou sans le vouloir, je dénonce peut-être, c'est aussi mon propos conscient, malgré tout, je dénonce aussi l'orthodoxie des méthodes, la façon dont on détourne les gens. Après tout, c'est aussi dans l'émulation que j'énonce ces moyens, comment dire, à minima, enfin je ne sais pas comment ça se formulerait, si donner l'exemple de ces moyens, c'est dire à un maximum potentiel de gens, au plus de gens possible, de leur dire, bah, écoutez, vous pouvez prendre une caméra. Pour moi, il n'y a pas de secret. Je veux dire, les gens qui se protègent derrière un soi-disant secret ou qui se protègent derrière de gros moyens qui seraient nécessaires, ils ne font que protéger une médiocrité. Ils ne font que protéger du tout venant, comme ça, de protéger quelque chose qui ne devient leur, qui ne demeure la propriété que dans la mesure où ils le protègent, cela, par toute la mythologie dont ils entourent, les moyens dont ils disposent. Il y a un travail, le cinéma, les médias audiovisuels aussi, ça devrait être un travail politique de démystification, un travail de dépossession. Pourquoi avoir peur de ce mot, de dépossession d'un privilège? Moi, je ne me sens pas... Je ne me sens pas démiurge à faire des films. Je ne veux pas être cela. Je veux être dans le rang des spectateurs. Non, mais oui, je veux être dans le... Je me donne, en faisant ce que je fais, je me donne un statut de premier spectateur, d'individu. Je ne fais pas partie d'un public et je ne saurais pas entrer dans un public tel du moins qu'on voudrait qu'il soit. Même si je m'adresse à une salle, comme c'était le cas l'autre jour, de 100 personnes, une centaine de personnes, je me suis adressé, et j'ai eu conscience d'un retour de cela qui m'a beaucoup gratifié, je me suis adressé à chaque personne de cette assemblée.
Tiens, justement. C'est à la fois dans la manière dont vous parlez de peut-être le premier spectateur de vos films, il y a quelque chose d'un peu jubilatoire, ludique, et en même temps, il y a, me semble-t-il, là je vois beaucoup de gens autour de vous et des jeunes, l'envie de transmettre et de donner envie de faire, me semble-t-il aussi. Ça, c'est quelque chose que je trouve de précieux. Vous avez envie de transmettre ce que vous aimez faire ou de donner envie?
Mais c'est le propre de la création de transmettre, de toute façon. S'il n'y a pas cette volonté, cette conscience de transmettre, c'est autre chose. C'est de l'ordre du commerce pur. C'est pas absolument péjoratif pour moi, mais je veux dire, c'est de l'ordre même pas du commerce. Le commerce est un échange, mais c'est de l'ordre du commercial autrement. Donc cette transmission existe, est à la base de la création même. Créer, c'est transmettre, hein, de toute manière. Et bon, mais c'est important, je ne sais pas, c'est important de transmettre aussi, de transmettre sur tous les modes, je ne crois pas qu'on... Bon, il y a une transmission comme tacite à travers la discipline qu'on a choisie, mais parallèlement... à cette transmission comme inconsciente, non dite, il peut y avoir une transmission verbale ou une transmission écrite. Je pense que c'est inséparable aussi. Enfin, ça n'est pas pour tout le monde, mais pour moi, il est inséparable de parler, d'écrire. J'ai le besoin, je ne fais pas toujours autant que je le voudrais pour des problèmes de temps. Peut-être, je ne sais pas, quand je prendrai une retraite ou quand entre des films aussi. Mais c'est une discipline de vie aussi à avoir. Moi, j'aimerais écrire. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes sur le cinéma, de réflexions que je puis faire. Je repartirai peut-être de certaines pour écrire, de certaines réflexions verbales, comme celles que j'ai faites dans cet entretien, de choses qui se transmettre, c'est il y a un retour de la transmission sur soi-même. Transmettre, c'est pas seulement dans une direction. Dans la transmission, il y a un échange. Je crois qu'on a à apprendre. Si on transmet à des élèves, mettons, comme ça a pu m'arriver dans un enseignement, j'ai reçu aussi dans cet enseignement. J'ai reçu en retour des enseignements de... Ce n'est pas un rapport hiérarchique, la transmission ou apprendre. C'est un besoin, même pour soi-même, transmettre. Si on ne transmet pas, c'est mortel. Transmettre, c'était attendre un retour aussi, espérer un retour.